Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pocori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Pocori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Couleur tropicale.
On dirait de l'eau sucrée.
Tu montes en monte, tu descends en descends. Tu plonges dans la rivière, on te va.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Yann Bourdelas, Annabelle Jogamandi et Sly. Juste après les prochaines infos, l'un des rois du zouk, j'ai nommé Sly, fera son couleur tropicale et chantera pour vous en direct. J'entends d'ici crier les filles et nous on ne compte plus. Ça nous fait mal, une souffrance qui nous déforme. On n'existe plus lorsque les lovers sont là. Non mais c'est vrai, vous pouvez pas imaginer ce que ça nous fait. On est... quantité négligeable, tout tordu dans un coin, comme ça en train de pleurer. Twisted en anglais. Oui, bah oui, 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 je prends des cours et ça sert. Voici 50 Cent.
Here's a little song you should know.
It's 50.
You don't know what you're in for.
Twisted.
Come on.
C'est bon, j'ai bien prononcé? Ok. Vas-y, laisse monter.
Yeah.
Toast to success, then take it a little higher. May tomorrow bring you everything your heart desires. Let your drive and ambition offer you new visions. Yeah. May your gut instincts help you make good decisions. Come on. This is more than champagne. This is more than just a glass. It's a symbol of accomplishment we rarely ever have. Let's enjoy tonight like tonight's our last. We can focus on the future and reflect on the past. We done came so far, I mean look what we are. If they don't call us by our name, they call us entrepreneurs. From the block to the boardroom, the hood to the highlight. Skyscraper, paper, baby, life in the limelight. Want the best of the best, the top of the top. I mean the baddest bitches, you know the cream of the crop. We got a hustling habit, we better than average. More like the elite, my nigga, we got a hit. Come on.
Party rocking, bottles popping. Turn up to me.
Turn up.
Twisted. Yeah.
Yeah, 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 yeah.
System thumping, the club is jumping. Tonight be your turn up to me.
Come on, come on.
Twisted. Yeah.
Yeah, 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 yeah. What we once strike against us has become an advantage. Cause we grind when we at it like we stone cold addicts. That mastermind, the mental is also essential. Product of the environment, they ain't been where we been. Yeah, I'm fond of the phrase, if there's a will, there's a way. Cause we come from the parts where only killers be placed outside. It's alright, ghetto's my alma mater, huh? It's alright. Party jumping like this all night. The bottles just keep them coming, baby, let's get right. Let's get it on. Play a little more and it's getting hot in here, homie, this could be a problem. Kenny Burke style, let's keep riding to the top. Let's do it, do it big, man, let a fucking hater watch. Oh yeah, this is perfect, it's a moment to remember. As we proceed on our money game,
we the party rocking, bottles popping. Tonight be your turn up to
turn up.
Twister.
50 Cent pour ouvrir ses couleurs tropicales. 50 Cent pour Twisted, extrait de l'album Animal Ambition. 50 Cent, le mauvais garçon du Queen, est devenu multimillionnaire. Il se fait même fabriquer des voitures modèle unique juste pour lui, just for you. For him, hein, c'est mieux. Non, mais je continue encore dans mes cours. Le rap, en tout cas, a sauvé beaucoup de jeunes afro-américains, et pas seulement, d'une délinquance programmée. En ce 4 novembre 2014, je voudrais saluer la mémoire de deux membres fondateurs des Black Panthers, Fred Hampton et Mark Clark, assassinés le 4 novembre 1969 par le FBI. Fred Hampton et Mark Clark avaient respectivement 21 ans et 22 ans. Crime d'État contre des gamins. Le savoir est une arme. Maintenant, vous savez.
Lollipop in the baby, a familiar lady, Nassim, Uganda, Kampala. Girl, Oli, Walla Walla.
Oh, Walla Walla.
In my heart, Walla Walla. Chagalambe, get up on your right hand side. Number one, one love fighter. Saga la kulaba, no division. Become me and you, me decision. Jolie Jimba, the commission. Kumani, so me need no revision. Over like a math equation. Bob me want crack it, me decision. Me know say your body a Beyonce, a Kriana. You take me, I na Mary Anna. Oh, Chimani, me love you, no lie. I love you, me no know. I love you, no, no more.
Golden voice, Tina Turner.
Bring me back,
sure. The way you do it is a promo, but it brings me back to normal. The way you do it is a promo, but it brings me back to normal.
Anneli, Jessica, Abidjan, Mamadou Salif Diallo, Mali, Sandrine, Elbeuf, Libreville. L'Ouganda prend sa place sur la scène musicale africaine. Merci Eddie Kenzo. Merci également à Apas, l'artiste présent avec Nanormal featuring Radio et Whistle.
Couleur tropicale.
C'est chalet, chalet, ouais.
Yeah.
Dans Couleur tropicale, le pouvoir est à la musique. Ha.
Mr. Louis Bay,
en troisième degré,
il y a Bay.
Hey, Kinshasa! Ok. Louboum! Louboum Bashi! Écoutez RFU!
Introduce you myself. It's me, Miss Millia Bell. The big, big, big star from Africa.
Yeah, Major! As a monster, keep the way. sango sima na ye tala batutani migali babo mani pasi don parcouré na baron ponyo so braza pasi don parcouré na baron ponyo so yakim souka mbouteillage
la princesse qui est doux
souka mbouteillage
le bien il casse la soupe honorable.
Jamais cru Louis Bell à ta seule place. Les médias et belles mettent des points comme une voix bonne. Quand je les ai tous, je m'en fous des louchas. Ah, yo, yoga, yoga. Ah, les belles filles.
DJ appelle ma
les médias, côté numérique. Le ghetto, le ghetto, le ghetto.
Changez les côtés, les médias changent les côtés.
Fais le show, hein. Vas-y.
Jamais de Ben Bella, il est bon. Je paye grec.
Tournez-les, 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 tournez-les.
C'est ça, Yemeja, le titre, une chanson qui marque le retour de la reine Biliabel. Si tout va bien, la tête couronnée de la chanson congolaise, Madame Biliabel, sera avec nous à Brazzaville le dimanche 14 décembre à 12h30 à l'esplanade du Palais des Congrès de Brazza pour les 20 ans de Couleur Tropicale et dans le cadre du Brazza Festival les 14 et 15 décembre. Nous parlerons de cette première édition juste après les informations avec Antonella Goma, présidente du comité d'organisation.
Si j'avais 20 ans, je mangerais le monde.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite.
Vous avez vécu 20 ans.
Couleur tropicale.
20 ans, 20 ans, que du bonheur, toi-même tu connais. Première étape de la tournée des 20 ans de Couleur tropicale, la tournée baptisée, toi-même tu sais, tour. elle commence à Brazza cette tournée. Allez, voici la séquence Couleur Tropicale Collection. Nous sommes le 19 septembre 1997. Nos invités sont Sirou et Ismaëlla, le duo Tourekunda.
Couleur Tropicale Collection 1997.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale.
Soudain, Tyson mord l'oreille d'Holyfield. Regardez l'oreille d'Holyfield, il en manque un petit morceau.
Elle s'appelle Dolly, elle a 7 mois. Dolly est le premier clone au monde d'un animal adulte.
1997.
Merci aux deux grands frères d'avoir accepté notre invitation. C'est que vous avez toujours été au cœur même des traditions de votre région, mais de votre pays tout simplement, car vous n'êtes pas des séparatistes dans l'attitude. Mam Malixi est une chanson importante pour vous sur le dernier album Mousselaï.
Oui, c'est très important. Je crois que cette chanson, ça fait plus de 10 ans qu'on est en train de travailler dessus, Ismaël et moi. C'est pour parler de la confrérie des Tidjanes. Et donc c'est une chanson en hommage pour les Tidjanes. Ismaël et moi, nous avons voulu retracer l'arbre généalogique de toute cette famille, qui est une famille vraiment d'une autorité et d'une tolérance religieuse que tout le Sénégal adopte, jusqu'en Algérie.
D'une humilité. D'une tolérance, tu l'as dit, effectivement. Et nous avons voulu faire un clin d'œil, quoi, parce que cet exemple dans le domaine islamique nous suffit. Et c'est vrai que ça fait quelques jours que son khalif général est décédé. Et que paix soit à son âme. Et c'est vrai que c'est comme Sirou le disait, ça faisait un moment qu'on était dessus et à chaque fois on ne savait pas quand est-ce qu'il fallait le sortir parce qu'il n'était pas fini ou il fallait encore chercher des renseignements parce qu'une fois qu'il est gravé, on ne revient plus dessus. Cet esprit de rassemblement, de rassembleur et cet esprit de tolérance doit au fond vivre, chaque Sénégalais doit le vivre au fond, chaque Africain au fond de lui a certainement quelque part une âme de pardon, une âme de quelqu'un qui peut pardonner, une âme de quelqu'un de charitable. Et je pense que c'est un aspect important pour nous. On insiste vraiment dessus et on le trace, on le souligne avec beaucoup de traits parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien de ne pas être humble.
Mam Malixi, extrait.
Batman Lee, Doudin, Mizamokana.
Touré Kounda, qui était donc ici à la maison RFI dans Couleur Tropicale le 19 septembre 1997. Et le duo Sirou Ismaïla était venu nous présenter l'album Mouslaï. Sly sera avec nous juste après les infos. Ça va Sly ?
Ça va, en pleine forme.
Bon, que faisais-tu en 97 ? Alors je sais qu'en 98, tu sortais ton premier album. Et en 97, tu faisais quoi ?
Oh là là, 97 ?
Bah, qu'est-ce que tu faisais ?
Je crois que j'étais en CDI, employé de bureau, et tout simplement une vie beaucoup plus calme et plus, voilà, rangée entre guillemets.
Sly, on va parler musique tout à l'heure.
Ouais, carrément.
Ne partez pas, messieurs et dames, hein. Nous revenons après les informations. Hein.
Tous les cinémas du monde.
Allô? Allô, tu m'entends?
Coula, 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 coula. Tropical. Salut, salut à toute l'Afrique. Moi, c'est Mosti, le soldat blessé. Je vous appelle depuis N'Djamena, précisément dans ma banlieue.
Oui, allô, bonsoir, Claudie. C'est Marcel Lachecou.
Bonjour Claudie, c'est Awalou, j'appelle de Tarwa au 4 soirée, maintenant je salue Annabelle de Commandi.
Salut Claudicia, salut RFI, c'est Alphys de Outa, sinon à l'affichement des films Ndjamena. J'envoie un maxi bigob à tous les Ndjamenois qui sont là-bas en France, à tous les auditeurs de Couleurs Tropicales et tous ceux qui kiffent la musique tchadienne, merci.
Ouais, c'est succès au prénom du Tchad, Mundou. Je vous dis, toi-même, tu sais, à tous les écouteurs de Couleur Tropicale. Ok, ciao, merci.
Et toi, tu dors encore, hein? Tu sais pas que Couleur Tropicale a commencé déjà? Et toi, tu suis quoi?
Couleur Tropicale, produit.
Toi-même, tu... C'est comme ça que je vous aime.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Yann Bordelas, Annabelle Jogamandi, Benoît le Tyran, Victor Hull pour accueillir un roi du zouk. Sly est notre invité. Vous êtes déjà nombreux à lui avoir adressé vos questions et Annabelle viendra poser vos questions à Sly. Ah, tiens, puisque je parle de noblesse, voici la noblesse d'Empire, la plus périssable d'ailleurs. Le 4 novembre 1977, se couronne empereur de Centrafrique, Bokassa, qui devient donc... c'était Jean Bedel Bokassa, il devient Bokassa Ier. Vous connaissez la suite. Dans un instant, nous parlerons du Brazza Festival, première édition, avec à l'affiche, entre autres stars, Roga Roga, que voici, extrait.
Grosse caisse. Pitos, Monda, elle est là. Obama,
encore et toujours, c'est toi le meilleur. Toute autorité vient de Dieu. Jean-Dominique Okemba, Moran Zambé, Moran Zambé.
Allez, qu'est-ce que vous avez dans votre yeux? Allez, contentieux,
c'est le titre, Roga Roga, à l'affiche du Brazza Festival. Antonella Goma, bonne arrivée.
Bonjour Claudie, comment vas-tu?
Eh bien écoute, moi ça va bien, et je devrais plutôt dire Madame la Présidente, car tu es la présidente du comité d'organisation. Bah oui, Bah oui, quand même.
Oui.
Les 14 oui, oui. et 15 décembre, Brazzaville aura donc son festival. La capitale donnera la parole à la jeunesse, car ce sont bien les jeunes qui sont au cœur donc de l'organisation de cet événement.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment pour donner un micro et une vitrine à la jeunesse congolaise, montrer vraiment que nous, jeunes Congolais, nous pouvons faire beaucoup de choses pour le développement de notre pays. Donc cette année, comme tu l'as dit précédemment, c'est la première édition. Donc il y aura beaucoup de surprises. On t'attend toi, entre autres, hein, vous, l'équipe de Couleurs Tropicales, on vous attend avec impatience pour le Brazza Festival. Mais c'est vraiment un événement pour la jeunesse, vraiment pour mettre en avant et mettre en lumière le savoir-faire congolais à travers la jeunesse que je représente et qui sera représenté également lors du festival.
Alors, j'espère que mon propos ne sera pas mal perçu, mais est-ce une façon finalement plus festive, ce festival, d'organiser des assises de la jeunesse, car il y aura des débats également?
Oui, exactement. Donc, on aura un côté plus festif avec les concerts, avec les défilés de mode, avec l'exposition. Mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et être vraiment trouver des solutions vraiment concrètes à la situation des jeunes congolais lors du débat télévisé qui aura lieu le 14 décembre à 11h, qui sera enregistré à 11h sur Télé-Congo. Donc ce sera vraiment un débat qui donnera vraiment la parole à la jeunesse congolaise et mettre en avant en fait le fait qu'il est possible. Et nous, jeunes congolais, nous pouvons changer la situation de notre pays si vraiment nous nous concentrons et nous donnons la main pour participer au processus de développement. Donc il y aura plusieurs intervenants qui représentent un peu les jeunes entrepreneurs congolais qui viendront témoigner de leur parcours et donner vraiment un petit boost aux autres jeunes Congolais qui parfois sont un peu réticents, qui n'ont pas forcément la capacité d'entreprendre. Donc c'est vraiment leur donner la possibilité de savoir que c'est possible. C'est possible d'entreprendre, nous jeunes Congolais, nous pouvons vraiment participer au développement de notre pays. Donc ça va vraiment s'articuler de cette manière-là, donc la manière festive et la manière un peu plus sérieuse, on va dire, à travers le débat télévisé.
Alors justement, qui sera à l'affiche du Brazza Festival? Quelles sont les personnalités qui, par leur réussite, hein, viendront dire à la jeunesse congolaise, oui, c'est possible?
Mais écoutez, nous avons déjà Véron Mankou qui sera là, qui est le président de VMK. Donc lui viendra parler un peu témoigner un peu de son expérience, puisqu'il a vraiment entrepris beaucoup de choses pour notre pays. Il y aura aussi la présidente de ADRA, qui est une société de transport et de remorques ici à Brazzaville. Cette jeune congolaise qui a monté sa structure il y a à peu près 3 ans viendra aussi nous témoigner de son parcours. Et elle évolue dans un milieu plutôt masculin, puisque les remorques des véhicules, c'est un milieu plutôt qu'on peut associer aux hommes. Et elle, en tant que femme, jeune congolaise, a évolué, a entrepris dans ce secteur-là. Donc, entre autres, nous aurons ces deux intervenants-là et d'autres aussi qui seront présents. Donc, je ne dévoile pas tout, je laisse quand même la surprise. Mais nous avons, entre autres, ces deux profils.
D'accord. Antonella Goma, donc, présidente du comité d'organisation. Et puis, nous, on parlera de toutes celles et tous ceux qui seront pour le grand concert sur scène qui viendront se produire. Alors, le lundi 15, il y aura la cérémonie de clôture, hein, et un jeune Congolais sera récompensé. Et puis, avant cela, le dimanche 14, s'il vous plaît, 14 décembre à 12h30, précise, rendez-vous sur l'esplanade du Palais des Congrès pour l'enregistrement en public de Couleurs Tropicales. 3 émissions totales, un véritable show, et on va vraiment faire monter la pression. Merci Antonella Goma et rendez-vous à Brazza la Verte.
Exactement. Merci à toi Claudie.
Ben,
merci
écoute...
à toi Claudie et rendez-vous à Brazza.
Exactement.
Allez,
bonne soirée. Eh oui, toi-même
musical
tu sais.
Phénoménal. Couleurs Tropicales, danger.
Je l'ai observé, hein. J'ai bien vu qu'il aurait beaucoup aimé, lui aussi, dire « Ah, j'aurais bien aimé être à l'affiche du Brazza Festival, première édition !» Il connaît déjà Brazzaville,
Enfin, je crois qu'il aurait beaucoup aimé, je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr et certain qu'il est ravi d'être ici, à RFI, pour vous présenter Double 6, son sixième album. Sly nous fait l'insigne honneur d'être dans Couleur Tropicale.
Merci, merci. Si faire un long voyage intérieur, si tu te laisses prendre au jeu, tu verras les yeux attachés, la vue est bien meilleure. Du bout des doigts, je ferai briller des étoiles sous tes paupières. Tu perdras pied à 10 000 pieds, là-bas au-dessus des mers. Je t'emmène au loin, au-dessus des nuages. Tu seras si bien, tout là-haut, tout là-haut. 5, 4, 3, 2, 1, paré au décollage. Je t'emmène faire un long voyage. Quand tu seras au Nirvana, gare aux turbulences, t'étonne pas si tu te mets à vibrer. Accroche-toi au son de ma voix. Tu verras des îles nouvelles défiler sous tes paupières. Tu te laisseras pousser des ailes, tu ne voudras plus toucher terre. Au-dessus des nuages, tu seras si bien, tout là-haut, tout là-haut. 5, 4, 3, 2, 1, paré au décollage. Je t'emmène faire un long voyage, yeah, yeah. Long voyage, je t'emmène au loin, au-dessus des nuages. Tu seras si bien, tout là-haut, tout là-haut. 5, 4, 3, 2, 1, paré au décollage. Je t'emmène faire.
Premier single extrait de l'album Double 6, Sly est à la maison.
Dis donc, toi l'invité.
Ok, ok, ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok, ok, ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein.
Sly, bonne arrivée.
Merci.
On vient d'écouter le premier single extrait de l'album Double 6, sorti le 1er décembre.
Tout à
c'est
fait.
Ça. Alors. Les critiques sont dithyrambiques, l'accueil est enthousiaste, tout le monde est d'accord. Il semblerait, à mon avis, que tu n'aies pas pris trop de risques, parce que tu travailles avec la même équipe qui t'entoure depuis déjà quelques années.
Exactement, la même équipe.
Ouais. Et dans le même temps, tu dis que c'est un album bien ancré dans son époque. Alors, est-ce le changement dans la continuité ? Attention, tu vas bientôt faire de la politique.
C'est le changement dans la continuité. Effectivement, le zouk, c'est une musique métissée et qui a cette capacité, en fait, d'absorber beaucoup de sons actuels, en fait, de son époque. Pour peu que, voilà, au fur et à mesure des années, on peut y intégrer des sons. C'est une musique métisse qui les absorbe très bien. Et c'est une chance, dans le sens où, effectivement, moi, ça m'a permis. Bien sûr, chacun fait son petit dosage, il n'y a pas de souci. Chacun a sa conception de la musique, son univers. Mais moi, ça m'a permis, en fait, d'intégrer des petits sons actuels, électro, qui voilà, électro, hip-hop bien sûr, et puis voilà, et ça donne une espèce de fusion que je souhaitais lorsque j'ai écrit les premiers mots de cet album.
lorsque l'on te connaît, et j'ai la prétention de dire que je te connais suffisamment pour savoir que tu t'intéresses à la marche du monde, et pourtant, dans le même temps, lorsqu'on écoute l'album, tu es sur les mêmes thèmes, les rapports amoureux entre hommes et femmes. Pourquoi ne pas aller plus loin dans l'écriture des textes ?
Ben en fait, c'est une j'y vais à tâtons, j'y vais au fur et à mesure, j'y vais à tâtons. C'est surtout que alors il y a plusieurs choses. J'entends des textes parfois que je ne me verrai pas interpréter tout simplement parce que je suis pas dans un tempérament forcément de grand frère et de donneur de leçons, ça me gêne beaucoup.
Ça veut dire que tu as déjà écrit certains textes un petit peu engagés, mais tu n'oses pas toi les interpréter.
Alors, engagé ce serait un mot fort,
ouais.
Mais c'est vrai des thèmes autres.
D'accord.
qui donnent ma vision, une certaine vision des choses, et tu l'as souligné, c'est vrai que je reste aux aguets de ce qui se passe. Maintenant, je n'ai pas fait une croix dessus, ces textes ou ces bouts de textes dormants vont avoir une vie. Ça c'est sûr. Par contre, Double 6, je le souhaitais comme étant vraiment une réponse à l'époque actuelle, c'est-à-dire une espèce de... Alors tu parlais de politique, je vais utiliser un mot qu'utilisent les politiques, sinistrose, voilà. le côté crise, si tu veux,
ouais.
c'est un peu en réponse, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on râle beaucoup, on se plaint beaucoup, des choses se passent, ça met un climat un peu délétère, hein, y a une espèce de climat, voilà. Et ce Double 6 là, il naît quelque part en réponse, puisqu'effectivement, en tant qu'artiste, j'absorbe des ondes, j'absorbe des vibrations, et les vibrations que j'avais de ces deux dernières années n'étaient pas forcément ultra positives, donc du coup, c'est en réponse. Je voulais quelque chose de positif.
Deux dernières années, c'est-à-dire 2012, vas-y, continue.
non, tu l'as cherché. Voilà. Non mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement...
C'est une bonne réponse, alors moi c'est une réponse qui me va.
Ben dans le sens où on a fait bien fonder beaucoup d'espoir, c'est effectivement sur le renouvellement de la présidence. Et c'était un peu ça. Et malgré tout, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas forcément enthousiaste. Hein. Il y a des études qui sont faites un peu sur voir le niveau de bonheur selon différents critères de la population.
Oh, c'est pas forcément à cause de ce président-là. Je pense que si l'autre avait été élu, ça aurait été la même chose.
En fait, c'est une période, c'est une époque. Voilà, mais sauf qu'il y a un ras-le-bol. Et donc, du coup, l'attente, la pression est plus forte au niveau de l'attente vis-à-vis des nouveaux élus. Enfin, voilà, c'est surtout ça. Et en fait, Double 6 a été un peu, je pense, hein, puisque j'ai pris un peu de vibration, ça a été en réponse. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute un album, en tout cas, ce que je souhaitais, c'est que les gens puissent partir dans une bulle. Et pour en revenir effectivement au thème que tu as énoncé et que j'aborde,
ouais.
Je voulais rester complètement positif, complètement aérien et... donner une bulle, une chance, voilà, d'être dans un cocon lorsqu'on m'écoute.
Ah non, mais on avait bien compris, c'était très bien expliqué, non, c'est génial. Très vite, aurais-tu pu, puisque l'actualité nous rattrape, écrire sur ces Afro-Américains, hommes et enfants, qui se font tuer par des policiers, et ces policiers qui, eux, sont acquittés. Est-ce que tu peux prendre ta plume et écrire, même si tu n'enregistreras pas la chanson?
C'est clair que, ben, forcément, on a des avis, on a des opinions, on a des choses qui bouillonnent un peu dans la tête lorsqu'on est face à des faits divers pareils. Maintenant, comme je te disais, j'y vais à tâtons. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut bien se renseigner. Alors, faire une chanson, c'est bien.
Hein, non, mais là, pour le coup, les faits sont là. Non.
Ouais.
Est-ce que toi, tu aurais pu, en tout cas, face à ces drames,
Parce qu'il suscite de l'émotion. Et
voilà.
Tu l'as dit, colère. Donc forcément, c'est inspirant.
D'accord.
Forcément.
Sly, on a réalisé un medley sur quelques chansons de l'album Double 6.
Ouais.
Tu écoutes et tu nous donnes ton avis juste après.
D'accord, ça marche.
Je peux être un prince, être charmant, ou laisser parler mon sang chaud. Être un gentleman un peu distant, ou bien te coller à la peau. Je peux être ton confident. Être ton ami ou ton amant, choisis en moi l'homme qu'il te faut. Quand ton corps me sourit, mon cœur bondit, un seul mouvement suffit, je désire. Quand ton corps me sourit, mon cœur bondit, tout tourne au ralenti et je m'enflamme. This is what you do.
carnaval, je croise une barine. Elle me dit comment ici y a pas de spleen.
Sly, est-ce un bon résumé de l'album Double 6?
Si, je valide le résumé.
Ouais.
Bah oui, je valide le résumé, d'autant qu'effectivement, on a un aperçu un peu de différentes rythmiques qui sont pas forcément zouk et qui donc démontrent un peu, enfin, qui illustrent l'ouverture que j'ai souhaité également sur cet album.
Alors, on a bien entendu que les refrains sont percutants, performants, si je puis dire. Est-ce une recette? Est-ce voulu? Est-ce calculé? Chez toi, les refrains sont toujours, mais vraiment. Efficaces.
Est-ce une recette? Est-ce un calcul? Alors, en fait, je vais te répondre la chose suivante. C'est que, au fur et à mesure que j'avance dans cette carrière, forcément, j'intellectualise un petit peu plus. Simplement parce que les premiers albums, c'est léger, c'est l'inspiration, c'est spontané. Et au fur et à mesure, parce que on veut pas répéter ce qu'on a fait, parce que on a entendu entre-temps des jugements, des critiques, donc on y pense un petit peu, et donc forcément tu intellectualises un peu. Ça m'est arrivé donc d'intellectualiser, c'est-à-dire de me projeter, de me dire tiens, je veux aller là, je veux dire ça, je veux entendre cet effet-là. Donc intellectualiser sera plutôt le mot. Le calcul, il y a quand même une grosse part d'inspiration.
C'est l'expérience finalement, voilà. L'expérience te fait mieux gérer les choses.
Tu cogites plus.
Tu cogites plus. Je vais te demander de poser ton casque, d'aller rejoindre ton guitariste que tu vas nous présenter. Et
Franck Bonalère.
Voilà, je te laisse le temps d'y aller pour nous interpréter ce soir. Et c'est toujours extrait de l'album Double 6. Là, il est à la maison.
Ce soir je m'abandonne à la nuit, je ne compterai pas les heures, toutes les étoiles sont de sortie, ce soir je serai des leurs. Déjà l'aiguille indique minuit, je resterai sur répondeur, déconnecté de mes soucis, je veux prendre de la hauteur. Et fêter comme si rien n'existait pas, comme si demain n'était jamais là. Faire le vide, se sentir vivre encore une fois. Debout jusqu'à l'aube, cette nuit ce sera sans regret. Tout le monde sur la piste, personne pour nous arrêter. Dans les starting blocks, parés pour tout faire trembler. Jusqu'au coup de sifflet final, debout toute la nuit. Destination les étoiles, ce soir, ce soir. On l'a mérité. Déjà je sens monter la pression, les regards brillent sous les néons, comme une odeur d'interdit qui se répand dans la nuit. On est tous là pour le frisson, tout est plus beau sous les lumières, tout le monde pavé, tout le monde en l'air. Faire selon nos envies, être libre n'a pas de prix, qu'est-ce que la vie sans un brin de folie. La nuit vibre, la nuit m'ensorcelle. Yeah, yeah, je me sens paré pour elle. La nuit vibre, la nuit m'ensorcelle. Yeah. Et je me sens emporté par elle. Yeah, yeah, je me sens emporté par elle. Jusqu'au coup de sifflet final, debout toute la nuit. Destination les étoiles, ce soir, on l'a mérité. Savourer chaque seconde jusqu'au bouquet final, des princes de la nuit, destination les étoiles, ce soir, ce soir. Je bouscule toutes les règles et je brise les chaînes. Inspiré par la nuit, j'instaure un nouveau règne au cœur de la nuit. je sème l'énergie, l'oxygène, que la soif de vie coule toujours dans nos veines, dans nos veines, yeah. Ce sera jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, ce soir, ce sera jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, ce soir, ce sera jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit, ce soir.
Merci, Sly. Viens nous rejoindre. Que je te présente celle qui, ce soir, jusqu'au bout de la nuit, sera peut-être avec toi, si elle souhaite te suivre, comme elle aime le zouk. Non, moi. Annabelle, bonne arrivée.
Merci, Claudie. Bonjour, Sly.
Bonjour.
Je vais te poser les questions que les auditeurs nous ont postées sur la page Facebook de l'émission.
Elle est de la Réunion.
Oui,
Il
le sait déjà.
Oui.
On en a parlé. Il aime beaucoup la Réunion.
Voilà.
C'est vrai.
Connais le principe? Question courte.
Réponse courte. Donc la première est de PLK Leb Capé. Donc il aimerait bien un jour que tu viennes en Haïti. Il te demande quelles sont les difficultés que tu as eues au début de ta carrière.
En fait, alors déjà effectivement, j'ai été en Haïti. J'ai été une fois. D'ailleurs, ça s'est super bien passé. Très beau souvenir. C'était la première et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc et que j'aurai l'occasion de croiser notre ami. Et excuse-moi. Je suis parti en Haïti.
Quelles sont les difficultés que tu as eues au début de ta carrière?
Au début de ma carrière, en fait, alors je vais répondre la chose suivante, c'est que j'ai été extrêmement chanceux. Voilà, c'est-à-dire que j'ai croisé par la suite beaucoup d'artistes, de musiciens, de compositeurs, etc., qui ont vraiment galéré. Et donc, à côté, ce que j'ai connu, c'était très, très léger. Alors, je considérais que j'ai pas eu forcément de difficultés. J'ai eu un ancien associé qui était quelque part un mentor et qui avait tracé un sillon dans lequel, en fait, donc, j'ai suivi.
Vous êtes cousins, non?
On est cousins, oui, tout à fait.
Ouais.
Donc, au sein de BS Productions. Donc, moi, ça m'a permis de doucement de mettre le pied dans le milieu. En plus, à cette époque, je travaillais encore, j'étais amateur, donc je faisais la musique à côté. Donc, qui est d'ailleurs une bonne méthode, entre guillemets, pour commencer à s'insérer. Et puis, c'est par la suite que tout a explosé, donc j'ai eu une chance, c'est qu'il y a eu cette explosion avec le titre Flamme, et ensuite, tout a glissé, c'était sur des rails. Donc, les difficultés, finalement, je préférerais pas m'étendre là-dessus, parce que...
Ouais. Sly, réponse courte, si on veut qu'un maximum de
d'accord, puissent...
Ah, bah oui,
Juste, Kofi Soussou, justement, tu parlais de du fait que tu travaillais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui tu vis de la musique ou est-ce que tu as une profession en dehors de la musique?
Le gars il vend des,
Ben, je sais pas, peut-être.
Le mec il a vendu 300 000 lettres.
Laisse-le répondre, Claudie. Mais
professionnel depuis 2014.
Mais c'est quoi cette question? Pardon, excusez-moi.
tu t'adresses donc à juste Kofi, Claudie.
Voilà,
non, c'est à toi que je m'adresse.
La question de Luc Licoï demande quelle est ta chanson fétiche.
Ma chanson fétiche dans mon répertoire ou...
Il a pas précisé.
Alors on va commencer par mon répertoire.
Et on va terminer par ton répertoire.
Voilà. Bah je dirais un titre Sensitive. Voilà, c'est un titre qui n'est pas que j'ai pas forcément sorti en single. Et fétiche, peut-être que je vais citer une chanson actuelle, quoi, tout simplement que j'écoute maintenant. C'est Body Language et je crois que c'est Kid Ink en featuring avec Usher et Tinashe. Voilà.
Et un message de Amboulou Durel qui, lui, aimerait que tu fasses du coupé-décalé. Donc, c'est ton visage.
Ah, ben, tout est possible en musique.
Merci Annabelle. Merci également à tous nos auditeurs. Merci Sly.
Merci
double
à toi.
6.
Merci pour l'invitation.
Donc, mais non, c'est normal. Il y a un petit bout de temps qu'on voulait que tu sois là. Et puis, tu seras également sur le plateau du Claudie Show.
Oui, tout à fait. Les tuyaux. Et puis, je viendrai avec plaisir. Bon. Et tout simplement. Donc, double 6. Écoutez-le. Faites-vous votre avis. Et puis, au plaisir de vous rencontrer, chers auditeurs.
Merci.
Au gré des shows.
Merci.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.
c'est le parfum des regrets. Oui, je sais, j'ai eu tort d'avoir tout gâché, mais c'est fait. Essayez encore, c'est mieux que de dire je m'en vais. Notre amour n'est pas mort. J'ai beau essayer de t'oublier, j'ai beau essayer de t'effacer, j'ai beau essayer de t'oublier, baby boo, boo, boo.
J'aime ta main sur du long chignac à mort. Et à quoi j'aime bien pas au dia ta crépa dans ta main. Cata lacrima et fait la fête qui m'a touché en danger. Vivez pour tomber. Et ta way, boo, boo, boo.
Baby, boo, boo, boo.
Et ta way, boo, boo, boo.
Querida, boo, boo, boo.
Et ta way, boo, boo, boo.
Señorita, boo, boo, boo.
Et ta way, boo, boo, boo.
Baby, boo, boo. Je m'en veux. Je veux qu'on soit baby. Si j'avais un vœu, parce que je peine à t'oublier, parce que je ne pardonnerai jamais, parce que tu es ma moitié et que je t'aime vraiment, bébé.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Beaucoup Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Alger, par exemple, on entend que des bus, des taxis, des klaxons, il y a un bruit d'enfer. Alors qu'ici, nous sommes maintenant, on n'entend rien du tout en dehors des enfants.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Ici, à la Casbah, on entend deux choses, les enfants et les oiseaux. Et la Casbah, c'est le cœur d'Alger, c'est-à-dire si par malheur le cœur s'arrête, c'est-à-dire la Casbah disparaît, c'est toute Alger qui disparaîtra longtemps avec elle.
Si loin, si proche, Céline de Velay-Mazurel
et Benjamin Availlouf. Bonjour. Cette semaine, nous partons à la découverte d'une perle menacée de la Méditerranée, un cœur palpitant et malade en même temps, la Casbah d'Alger. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, la vieille cité labyrinthe, à flanc de colline, regarde toujours fièrement la mer, mais elle se retrouve aussi, aujourd'hui, engloutie dans la grande ville d'Alger. En balade dans ses ruelles tortueuses, aux marches boiteuses et aux vieilles maisons enduites à la chaux, on découvre donc un château de cartes, fébrile, une médina authentique, miséreuse et élégante à la fois, en lambeaux, mais toujours debout. À part ces quelques sillons profonds, témoins de la colonisation française, la Casbah d'Alger se déploie en frêles artères, typiques des villes historiques maghrébines. Les enfants dévalent les escaliers d'un cœur irrigué par l'histoire du pays et de ses 50 000 habitants, les Casbadjis. Ancien sanctuaire de corsaires ottomans au XVIe siècle, foyer de la contestation nationaliste algérienne dans les années 50, puis repère d'islamistes durant les années noires, la Casbah raconte le destin tourmenté de l'Algérie tout entière. Et c'est dans ce dédale d'histoire et de ruelles pavées qu'Alice Milo a essayé de prendre le pouls d'un quartier qui parle au cœur de tous ceux qui y pénètrent.
J'adore rentrer dans la Casbah.
J'adore
rentrer dans ce lieu.
Bonjour.
De vie.
Bonjour.
J'aime retrouver mes repères, mon identité profonde. C'est algérien, pur. Voilà. Voilà ça.
Donc là, on est en train de gravir des marches. On est où, en fait?
D'abord, on est à la basse Casbah. Alors, d'un côté, il vaut mieux venir avec quelqu'un qui connaît pour ne pas se perdre, parce que c'est grand, c'est très grand. Alors, moi-même, des fois, on ne peut pas aller par là parce que c'est une impasse.
Ah ben, ça, faut le savoir, par exemple.
Voilà. Alors, il y a plein d'impasses, il y a plein de petites ruelles comme celle-là.
Vous-même, vous vous perdez, alors?
Oui, donc, j'aime pas dire ça parce que c'est une découverte pour moi. On a la sensation de rentrer chez soi.
Alice, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors, on a dit beaucoup de choses sur la Casbah. Vous, en entrant dans cette médina, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Eh bien, j'ai eu l'impression d'entrer dans un livre d'histoire. En y arrivant depuis le bas de la Casbah, sur le front de mer, on laisse l'agitation de la ville derrière soi, hein, d'autant plus qu'actuellement, il y a le grand chantier du métro, et on se retrouve projeté dans le passé, dans un décor presque sépia.
Alors, Yousra Chougui, qui vous y a guidé et qu'on vient d'entendre, a l'air aussi de se fondre parfaitement dans ce décor couleur sépia.
Et oui, c'est une jeune femme vraiment amoureuse hein, du quartier et de ces ambiances hein, d'autrefois, de souks, d'artisans, de femmes qui brodent habillées en haïk, hein, ce grand habit blanc traditionnel avec une voilette hein, sur le visage. C'est une des images fortes que l'on se fait d'Alger la Blanche, mais que l'on retrouve beaucoup moins évidemment aujourd'hui.
Alors il faut dire aussi que Yousra travaille comme guide au Musée National des Arts et Traditions Populaires qui est situé dans le quartier, et on vous suit avec elle justement dans la Casbah.
Et on commence à traverser les ruelles bien serrées, donc très étroites, très étroites. En même temps, dans l'architecture musulmane donc, et arabe, donc c'est la mesure d'un âne ou d'un cheval pour nettoyer la Casbah. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, donc, en marche, tu vas voir que il y a une porte qui est en face d'une autre porte. Et ça, c'est vraiment aussi dans l'architecture arabo-musulmane. Donc,
on passe sous des échafaudages, là.
Ouais. La Casbah, maintenant, elle est bien consolidée avec plein de
poutres en bois, ce qu'on appelle les étais ici. Hein.
Oui.
Donc là, on passe sous les étais qui retiennent et empêchent la Casbah de s'effondrer, en fait.
Oui, oui. Elle tient pour l'instant la Casbah pour qu'on reste émerveillé un peu de sa beauté. Alors, on commence par cette fontaine. Alors, les fontaines de la Casbah, j'adore aussi. C'est un lieu de vie, de rencontre et tout le monde cherche de l'eau. En même temps, on discute sur tout et rien. Et voilà. À la Casbah, il y avait presque 100 fontaines. Bon, il reste que 7. Donc, mais elle est très belle avec ses colonnes en marbre
et puis de faïence.
Oui, oui, c'était ça l'architecture des fontaines. En même temps, donc, les Ottomans, quand ils sont rentrés à la Casbah, donc, il y avait un grand problème d'eau. Donc, ils ont construit des aqueducs à l'extérieur des murs et des portes. Et après, donc, ils ont construit les fontaines à peu près dans chaque quartier pour distribuer l'eau dans les maisonnettes du quartier.
Mais alors, maintenant que les gens ont de l'eau courante dans les appartements, qui les utilise encore ?
Moi, je vais boire un peu d'eau. En même temps, boire cette eau, ça fait quelque chose, hein. Comme si elle vient de loin aussi. Comme la Casbah. Donc on va passer par là. Alors on passe par, on rentre dans un quartier qui est connu dans les sources historiques sur la Casbah. Donc c'est le quartier de Sidi Abdallah. Et voilà, on passe à côté de la mosquée. C'est une petite mosquée, mais très belle dans son architecture, avec son minaret. Et voilà, c'est une petite salle de prière avec le mihrab du imam. Et voilà, c'est simple.
On peut peut-être demander aux messieurs, je peux vous poser 2-3 questions ?
Ben, tu es ici, la Casbah. Eh bien, voilà, il dit, on est vrais des habitants de la Casbah. 5 générations. Allah ybarak, Allah ybarak. Où est-ce que
tu es ?
Il y a une âme à l'intérieur de la Casbah. Voilà, c'est comme un poisson, il ne peut pas sortir. Voilà, il ne peut pas sortir de la Casbah parce que il est trop attaché à cette âme. Il y a une âme ici. Voilà.
Alors une âme arabo-musulmane, mais aussi andalouse, Alice.
Et oui, car pour comprendre la fondation de la Casbah, il faut se tourner de l'autre côté de la Méditerranée et remonter le temps, quand en 1492, la prise de Grenade met fin à 7 siècles de présence maure musulmane en Espagne, achevant ainsi la Reconquista, cette reconquête chrétienne de la péninsule ibérique.
Un récit épique que vous êtes allée chercher, Alice, chez Corinne Chevalier, auteure de La Nuit du Corsaire.
Cette historienne, issue d'une famille pied-noir depuis 6 générations, n'a jamais jamais vécu dans la Casbah, mais elle a toujours été fascinée par son passé. Une façon, comme elle le dit elle-même, de rendre à l'Algérie ce que la France lui a pris, à savoir son histoire et sa grandeur.
C'est Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille qui ont repris l'Espagne. Ce faisant, ils ont chassé d'Espagne tous les musulmans, ou alors il fallait qu'ils se convertissent. Et où aller? Bah, ils sont en Afrique du Nord, bien sûr, puisque c'était une terre musulmane. Donc quand ils sont arrivés à Alger, énormément d'Andalous se sont installés là. Et la ville a eu tout d'un coup une montée démographique terrible, donc on a construit. Et ça a commencé à inquiéter le roi d'Espagne, qui s'est dit quand même, là il commence à en avoir beaucoup de l'autre côté, et ils ont eu peur d'une reconquista. Donc le cardinal Jiménez, qui était le premier ministre de Ferdinand d'Aragon, a décidé qu'il allait reprendre tous les ports du littoral de façon à empêcher de nouvelles expéditions sur l'Espagne. Les Algérois, quand ils ont vu ça, ils se sont dit « la prochaine fois, c'est notre tour ». Et en 1516, ils ont décidé de demander à des corsaires, la famille Barberousse, qui était aux ordres du sultan, mais qui était un peu des mercenaires. Et les Algérois leur ont demandé de venir de façon à ce qu'ils ne viennent pas nous envahir. Bien sûr, ils sont arrivés, ils ont trouvé ça, la ville tellement belle, l'endroit tellement beau, qu'ils n'avaient plus du tout envie de partir. L'aîné, Harouj, a trucidé le chef d'Alger, qui s'appelait Selim Toumi à l'époque. Puis alors, il avait un peu la folie des grandeurs, il a voulu aussi aller prendre Tlemcen. Il s'est fait tuer à Tlemcen, et c'est son frère, Khareddin, qui est Barberousse, qui a hérité d'Alger. Et il s'est dit, je ne pourrais pas garder Alger tout seul, c'est pas possible. Je vais le mettre sous la protection du sultan ottoman. Il faut se mettre aussi dans la tête ce qu'était à ce moment-là la Méditerranée. C'était, si vous voulez, il y avait, je pourrais dire, deux croissants énormes. Il y avait l'Empire d'Autriche, Charles Quint d'un côté, et l'Empire ottoman de l'autre, qui se faisait une guerre incroyable, et ils sont devenus donc une des provinces de l'Empire ottoman. Et effectivement, sous le gouvernement de Khareddin Barberousse, cette toute petite ville est devenue un État. Et Khareddin Barberousse est devenu le Bey El Herbey d'Alger, et c'est lui qui a commencé à lancer justement cet énorme mouvement de la course. Lui étant un corsaire redoutable, il a lancé ce pays sur la mer. Et c'est à partir de là qu'il y a eu la grande poussée d'Alger qui a duré 300 ans.
Et pendant 300 ans, la ville va vivre sous la protection des Turcs qui, en 1516, vont construire à son sommet une forteresse abritant le somptueux palais du Dey, chef du gouvernement d'Alger. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de la Casbah, qui en arabe signifie « citadelle, forteresse ».
Oui, et c'est cette guerre de course, hein, ces opérations navales menées par les corsaires, les raïs, à laquelle fait référence Corinne Chevalier, qui va faire la fortune de la ville.
Aujourd'hui, dans la Casbah, on peut par exemple visiter le rutilant palais des raïs, récemment rénové, autrement appelé aussi Bastion 23, pour se faire une idée de la richesse et de la beauté de ces palais ottomans.
Mais justement, il n'y a pas que les palais, hein, Céline. Dans la Casbah, la moindre douira, même Dekati, se révèle être à l'intérieur un petit bijou insoupçonné, avec sa cour carrée faisant office d'atrium. Et c'est le cas de la maison d'une figure du quartier, Ouria Bouhired, architecte et présidente de l'association Sauvons la Casbah, une maison qu'elle a entièrement rénovée.
Et cette maison, on en reparlera, Alice, est également retrouvée au centre de la lutte pour l'indépendance algérienne. Elle est située en bas de la Casbah.
Ça, c'est l'ex-rue Caton.
Donc une petite ruelle qui monte avec des escaliers pavés. Hein.
Oui.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, on comprend très bien dans cette rue que les maisons sont l'une sur l'autre, hein, parce que les murs sont, oui, à touche-touche.
Là, c'est un étément éternel, hein, d'ailleurs. Hein. L'étément, il est en train de foutre le camp et tout va partir. Ça sert à rien de mettre des étaiments quand on vient pas restaurer après.
Oui. Alors, donc on rentre.
Oui. Ça, pour moi. Bonsoir. C'est une maison typiquement mauresque qui date de pratiquement 1770. Donc il y a, vous avez l'entrée, vous avez le niveau patio, vous avez le niveau de la coursive autour desquelles il y a des chambres aussi.
Un premier étage.
Premier étage.
Le patio, en fait, c'est une cour intérieure. Pourquoi on a construit des patios? C'est-à-dire que quelle est l'utilité et l'intérêt du patio?
La maison était fermée à l'extérieur, il y a de très petites ouvertures, et toutes les maisons, la vie était à l'intérieur. Donc, il fallait qu'il y ait de la lumière, parce que les fenêtres étaient très petites, hein. Et la femme, elle pouvait voir sans être vue.
Des lucarnes.
Voilà, des petites lucarnes, où elle voyait les hommes passer, les gens passer, mais elle, elle n'était pas vue. Il fallait protéger les femmes, donc tout s'oriente vers l'intérieur. Et il y a donc des colonnes avec des chapiteaux, c'est des colonnes
torsadées.
C'est ça qui fait le charme de la Casbah d'Alger, comparé aux autres Casbahs des autres médinas de l'Afrique du Nord. Dans une maison modeste, vous trouvez des colonnes torsadées en marbre, des chapiteaux qui sont entièrement travaillés, sculptés, mais alors avec la belle faïence qui est venue de Delphes. Le bois, il vient du Liban
pour les portes.
Vous avez vu les couleurs chatoyantes, comment elles sont gaies, elles sont, puis cette lumière qui arrive d'en haut, c'est...
Mais toutes les maisons ont cette extraordinaire puits de lumière au cœur de la maison.
Les maisons de la Casbah sont hautes, et elles ont toutes un puits de lumière. Et à partir des terrasses de la Casbah, de toutes les terrasses de la Casbah, vous voyez la mer.
On entend des oiseaux, il y a des petits jardins pleins de plantes. Voilà, et là on va sortir, ça y est, on est à la haute Casbah.
Retour aux voitures
et... Alors on arrive à la haute Casbah.
Le point culminant.
Voilà.
Salam alaikum. Il y a une belle agitation ici. Hein.
Oui. Ça, c'est très vivant à la haute Casbah, à Sidi Ramdan, à Ouin Mzouqa. Les petites ruelles, c'était le lieu de vie pour les enfants, pour jouer, surtout pour les garçons. Bon, les filles, c'était à l'intérieur. Après, donc, quand on devient jeune, c'est les cafés morts. C'est le lieu favorable des hommes algériens.
Donc là, c'est un petit café typique.
Oui.
Là, on voit quelques messieurs qui sont attablés. Bonjour. C'est vous le gérant de l'établissement?
Oui, ce café, c'est nous qu'on a créé. On fait le thé à la Casbah. Il y a des amis qui viennent ici. Il y a des anciens qui viennent ici aussi.
On voit le monsieur qui fait le thé à la façon traditionnelle.
Ah oui, à la façon traditionnelle, oui.
Celui-là est pour vous, madame.
Ah, merci. Alors, donc, c'est le thé à la menthe?
Oui, c'est notre spécialité. C'est notre spécialité.
Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent ici?
Ben, les années passées, il y a des gens qui se rappellent au temps de la France et au temps de la Révolution. Il y a beaucoup d'histoire ici. Ouais.
Donc, on vient ici pour se rappeler les souvenirs?
Oui, c'est comme ça qu'on a appelé le coin de mémoire.
C'est le nom du café?
Ah ouais, c'est le nom de du café, ouais. Et vous voyez là, c'est les martyrs. C'est Hassiba, Talba Abdelrahman, Mahyout, Tia.
Donc vous avez accroché au mur des portraits de martyrs?
Oui, ah oui. Et en bas, c'est les chanteurs.
Et alors pourquoi vous avez accroché au mur des portraits de martyrs?
C'est pour justement la mémoire. C'est une histoire quand même. On ne peut pas l'oublier. On n'oubliera jamais.
Qu'est-ce que vous dites, monsieur?
La Casbah, c'est notre fierté. C'est notre histoire. Ça fait partie de notre vie. La Casbah, c'est une chose extraordinaire. On vit dans un bouquin d'histoire.
Merci beaucoup. Ouais, ouais. En tout cas, les gens parlent très facilement ici. Hein.
Ah ben oui, c'est...
Salam alaikum.
Ils sont très sociaux, c'est comme ça, c'est l'aîné là, donc qui... sa vie, c'est pas juste la famille, c'est tous les voisins, c'est tout, c'est une grande famille, voilà. Ça reste, les liens, vraiment, ils se tissent très très facilement. Alors, autrefois, donc, les femmes d'une terrasse à une terrasse, c'était la connexion Wi-Fi d'une terrasse à l'autre. Chaque maison a sa terrasse, donc il y a des terrasses partout, voilà.
Bonjour.
Bonjour madame.
Lilia,
alors, on est chez un habitant qui nous a permis de voir sa terrasse. On va découvrir la terrasse de la Casbah.
Une maison à la Casbah.
Trois étages pour arriver.
Oh là là. C'est magnifique.
Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une belle vue, non? Alhamdulillah. On fait les linges, on voit sur la belle vue. On voit presque tout la baie d'Alger, ouais, le centre-ville. On est juste en haut.
Tous les matins, vous vous levez, vous venez sur la terrasse et vous avez cette vue avec la mer.
Bien sûr, je bois mon café à la terrasse.
C'est comme un amphithéâtre, donc autrefois aussi, la terrasse, c'était pas une simple terrasse. C'était aussi un lieu de vie et de communication, surtout avec les voisines. Donc d'une terrasse à une terrasse, donc les voisines échangent leur vie quotidienne. Alors je crie Farouja, tlaï l'stah, monte à la terrasse.
On se dispute par la terrasse, comme avant, à l'époque, comme nos parents, on discute par la terrasse.
C'est vrai? Oui. Là, avec votre voisine là-bas, vous parlez?
Si, elle se trouve là, elle va discuter avec moi, oui, elle va, on va se raconter par la terrasse. On invite des fois, surtout en ramadan, on invite les voisines pour faire la soirée à la terrasse. Oui, on fait la musique.
Shabi,
c'est ça, c'est sûr, elle est là, elle est en face de toi, la chaîne.
Ah
là,
oui.
La voilà.
Vous me lancez un disque
bien
de Shabi?
Bien sûr, oui.
Et c'est sur un air d'El Hadj El Anka, grand maître du Shabi algérois, un genre né dans les années 20 et véritable bande-son de la Casbah, que l'on se quitte pour 3 minutes. Place aux nouvelles du monde sur RFI. À tout de suite.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Pourquoi les gens aiment la Casbah? C'est conçu de telle sorte que toute maison, toute rue doit bénéficier de ce soleil. On dit qu'il y eut à l'époque ottomane un décret qui obligeait toute personne qui allait bâtir sa maison à laisser le voisin de l'arrière, à lui laisser une sorte de photographie, la liberté de voir la mer. Ça fait partie des petits secrets de la Casbah. Quand vous avez dû voir que les maisons, il y en a parmi elles qui sont tombées, d'autres sont à moitié debout. Quelquefois on passe par des rues, on se dit mais c'est pas possible que des gens puissent vivre dans un tel remue-ménage. Et pourtant c'est beau, les gens trouvent ça très beau.
Belle et rebelle, la Casbah d'Alger est aujourd'hui un patrimoine en danger qui mérite le voyage pour sa vue imprenable sur la mer, mais aussi et surtout pour ses habitants ou plus largement ses amoureux comme Larbi Ijboudan, un sociologue urbaniste qu'on vient d'entendre. Et le nôtre de voyage continue d'ailleurs dans une cité au bord de la ruine, dans un entrelac de ruelles et de vieilles maisons imbriquées. On a découvert la grande période ottomane de la ville avec sa citadelle située à 120 mètres de haut. À l'époque, l'ancienne cité mauresque s'étendait d'ailleurs sur plus de 60 hectares jusqu'à l'arrivée des Français en 1830. Et pour évoquer cet épisode, on retrouve Alice Milo, notre reporter, avec Farida Benouis, fondatrice de la revue Icosim, première revue d'archéologie d'Afrique du Nord, sur le front de mer, un endroit stratégique pour observer les mutations de la Casbah.
On est arrivé au niveau de la place des Martyrs, donc juste au pied de la Casbah, au niveau de la mosquée de la Pêcherie, et on domine donc le port d'Alger avec derrière nous, donc toute la Casbah qui dévale la colline pour arriver jusqu'à nous. Alors il faut savoir que cette Casbah qui arrivait donc avant jusqu'à la mer, bien sûr, a été en bonne partie rasée par les Français quand ils sont arrivés à Alger en conquérant et en colonisateur, donc les Algériens n'avaient pas voix au chapitre, hein. Donc, voilà, c'est tout, ils ont dégagé cette partie, il fallait absolument qu'il y ait une grande esplanade qui pouvait servir de champ de manœuvre pour l'armée, si vous voulez. Il faut imaginer, donc ils arrivaient avec une armée considérable.
Il fallait ouvrir.
Il fallait ouvrir, et donc ils ont rasé 17 hectares. Ça a été très mal vécu, parce qu'en particulier, cette place des martyrs, ces 17 hectares qui correspondent à la place des martyrs, représentaient la partie la plus commerçante. Et donc, ça correspondait donc au grand souk. C'était non seulement le siège du marché, mais c'était aussi le siège du gouvernement. Et puis surtout le siège de la vie religieuse, parce que cette place des martyrs, on y trouvait à l'époque ottomane donc 7 mosquées, et donc il y en a eu 4 de rasées, et il en reste 3 que vous avez donc sous les yeux. Donc la mosquée de la pêcherie, la grande mosquée qui est là-bas, et la mosquée Ali Bechin qui est un peu plus loin en arrière.
En 1830, il y avait un plan. La priorité des priorités, c'est qu'à l'invasion, il fallait absolument détruire le mythe ou la symbolique de la Casbah, qui était une citadelle de la résistance. La Casbah constituait pour eux un repère. Un repère qui pouvait être compromettant pour leur projet de colonisation durable et à l'éternité.
Qu'il l'a été, d'ailleurs.
Colonisation qui a duré 132 ans. Alors, que va-t-il faire ? Raser totalement la Casbah, ce n'était pas possible. Donc, ils ont trouvé une idée géniale qui consistait à éventrer la Casbah, la partager en deux, la haute et la basse Casbah. Alors, là où nous sommes, on a bâti ces immeubles qui sont des immeubles de style colonial de l'époque, style empire. Hein.
On dirait presque des immeubles parisiens. Hein.
Absolument. Donc, on se retrouve. Il y a même une ressemblance avec des immeubles du Marais, si vous connaissez.
Le quartier historique de Paris.
Ils ont éventré cette Casbah pour faire perdre toute trace et tout le cachet de ce qui pouvait rappeler la Casbah et son histoire, de manière à la domestiquer, à la gérer. Vous savez que à la Casbah, ils ont baptisé des rues. On a fini par se croire dans une faune animale. Rue de la girafe, rue du coq, rue du incroyable. C'était par dérision. Voilà un petit peu une facette de ce qu'a été la colonisation française. Là, c'est l'histoire qui le dit.
Et on tourne une nouvelle page de l'histoire de la Casbah en compagnie, cette fois, de Lounis Haït Aoudia, que l'on vient d'entendre. Il est président d'une association qui défend à Lys le patrimoine de la vieille ville.
Oui, surtout que sur ces 60 dernières années, la Casbah a connu de grands virages, hein, ceux de l'histoire algérienne, les heures sombres, à commencer par celle de la lutte pour l'indépendance du pays.
On vous retrouve avec Lounis sur les traces, justement, de cette mémoire parmi les enfants de la Casbah.
Bonjour,
voyez,
oui.
C'est la Casbah de demain. Vous voyez, ils vous souhaitent la bienvenue. Merci. Ils sont heureux et chaleureux aussi. Hein. Maintenant. Ouais, on y va.
Allez, on y va.
Allez.
Allez.
Moi qui ai vu le jour dans cette cité, je ne peux pas franchir un pas sans que ces lieux soit parlant pour moi.
Et alors, donc, vous vouliez me raconter un souvenir particulier, justement.
Alors, un souvenir particulier, c'est cette placette. C'est ici, le 3 juillet 1962, où il y a eu la première soirée musicale de l'indépendance, qui a duré toute une nuit dans une atmosphère d'hystérie. On a vécu une nuit de liesse en fêtant le premier jour d'indépendance en voyant le drapeau national déployé. C'était en 62, je suis né en 44, moi. J'avais 18 ans. Lorsque je me souviens de ce jour, j'ai de la chair de poule. Les gens ne croyaient pas arriver à ce jour. Avec tout ce qui s'est passé, les exactions qu'a connues ce quartier, la Casbah a été le fer de lance de la guerre de libération. La presse révolutionnaire a vu le jour ici à la Casbah. Ailleurs, c'était des quartiers habités par la communauté européenne, colonialiste. Ce n'était pas possible d'envisager d'organiser un noyau révolutionnaire ou une guérilla. Et d'autre part, la Casbah, avec son relief, ses constructions, ses ruelles, ses abris, eh ben, c'était un rempart stratégique pour l'organisation d'une lutte armée. Puisque la France, à l'époque, elle avait tout fait pour que la Casbah soit surveillée 24 sur 24. Ils ont mis un quadrillage où une aiguille ne pouvait pas passer. C'était un véritable siège qu'il y avait à l'époque. Parce qu'ils avaient un ennemi qui les combattait, mais qui était invisible.
Donc là, on est rentré dans une petite ruelle. Hein.
Là, on est rentré dans une petite ruelle adjacente au marché qu'on appelait à l'époque marché Rondon, qui actuellement porte le nom de Ammar Ali, qui est le véritable nom de Lila Pointe, le héros de légende nationale. Hein. Alors voilà la porte d'entrée.
Là où rentre la dame ?
Voilà, là où rentre la dame. Là, il y a eu une véritable épopée. Vous avez vu, en 1957, c'était le lieu de repli des résistants. Bir Sherif, Haji Atman, Haji Nordin, Hamito Zahia, même une jeune, hein, qui était là. Et sur dénonciation, l'armée française a su qu'ils étaient là. Qu'ils ont commencé, ils ont pris leur mégaphone, en les appelant un par un, rendez-vous. Eh ben, ils ont pris les armes et ils sont descendus en mitraillant. Et ils sont morts ainsi au combat. Voilà. Donc c'est un lieu de mémoire qui illustre une résistance, un pont d'histoire et une épopée. Parce que cette cité est une cité martyre aussi.
En 1957, la bataille d'Alger a opposé combattants du Front de Libération Nationale, le FLN, et paras-français sous l'autorité d'un général Massu qui a alors les pleins pouvoirs. Assiégée, quadrillée par 10 000 soldats de l'armée française, la Casbah devient alors le théâtre d'arrestations massives, violentes, l'objectif étant de démanteler par tous les moyens, torture et infiltration comprises, tout le réseau indépendantiste.
Et avec l'UNIS, nous aurions pu aller aussi rue des Abderrahmes, voir une autre cache fameuse, celle où Ali Lapointe, l'adjoint de Yassef Saadi, une des têtes du FLN, s'était retranché pour y mourir finalement avec d'autres compagnons de lutte. L'armée française avait en effet décidé de faire exploser tout le pâté de maison. Cet épisode a marqué les esprits dans la Casbah et aujourd'hui, on y retrouve une plaque commémorative en marbre blanc.
Autre lieu important de cette bataille d'Alger, c'est aussi la maison de la famille Doria.
Le fief de la bataille d'Alger, c'était là. C'était le 3 rue Caton, actuellement le 3 rue Malaika Ben Aïssa. Dans cette maison, il y a eu l'arrestation de Madame Zora Drif, l'arrestation de ma mère, l'arrestation de Yassef Saadi. Dans cette maison, il y avait Hassiba Ben Bouali, et il y avait Ali Lapointe. Enfin, tout se déroulait ici. Je me rappelle très bien le jour où ils sont venus arrêter ma mère. Nous, on était au niveau de la terrasse et on n'avait rien compris. On criait, on lui tirait ses habits, on lui disait il faut pas partir. Elle a dit je vais revenir. Mais elle n'est pas revenue. Elle a pris ma petite sœur, elle est partie en prison, elle n'est jamais revenue pendant longtemps jusqu'à ce que justement Germaine Tillon, qui était là, elle s'occupait de nous.
C'est une Française qui a pris part du côté algérien.
Qui a défendu une femme qui était en prison avec son bébé. Vous imaginez, vous arrachez le bébé du sein de sa maman pour aller la torturer et la ramener.
Comment s'organiser la résistance ici dans cette maison concrètement?
Du plus petit au plus grand. Du plus petit, il était complice au plus grand. C'est pour ça que...
Les jeunes, son oncle par exemple, qui était gosse, les gosses portaient les messages, ils épiaient. Ils faisaient la surveillance. C'était des donneurs d'alerte quand les militaires arrivaient. Parce que voilà ce qui se passait. Les révolutionnaires étaient ici, comme nous sommes ici. Et il a fallu une alerte pour qu'ils aillent dans la cache. Il fallait une alerte. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester tout le temps dans la cache. C'est très étroit, c'est très exigu. Bon, ils pouvaient respirer, mais difficilement. L'alerte, elle venait de la terrasse. De la terrasse, c'était les femmes. Et de la rue, c'était les gosses. Et pour ça, la répression a été générale.
L'armée, quand elle rentrait ici, elle rentrait en force. Il n'y avait pas un ou deux éléments qui rentraient. Ils bombardaient difficilement la Casbah parce que c'est un bloc uni.
La Casbah a été particulièrement un lieu important pendant la guerre d'indépendance.
Il y avait une très grande solidarité entre les gens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'espace tel que conçu les incite à la solidarité. Il n'y a pas une maison qui ne s'ouvre pas pour recevoir un fidèle, un moudjahid, pour le cacher, ceci dans le puits, dans la cachette, etc. Cette solidarité entre les gens, vous ne la retrouverez nulle part ailleurs.
À la Casbah, c'est vrai qu'on loue souvent l'esprit de solidarité de ce quartier populaire, que ce soit à Lys, en temps de guerre ou en temps de paix.
Et ce qui se raconte volontiers aussi, Céline, dans les ruelles de la Casbah, c'est la décennie noire. En effet, dès le début des années 90, Alger la Blanche se teinte de rouge, couleur du sang qu'ont fait couler pendant 10 ans les groupes islamistes armés.
10 ans de guerre civile, 100 000 morts à travers tout le pays, une terreur qui a marqué à jamais la Casbah et ses habitants. Areski Imer, journaliste algérien.
Le premier attentat islamiste commis à Alger, c'était contre une voiture de la police, ici à la Casbah. Parce que c'était beaucoup plus facile d'échapper au service de sécurité après. C'est vraiment pas facile de contrôler un espace comme ça. Et c'est des gens d'ici aussi. C'est un groupe d'islamistes qui a réussi à pénétrer à la Casbah. Mais ensuite, ils ont pris quand même assise. C'est-à-dire qu'ils se sont installés ici, ils ont créé la terreur. Les gens ne pouvaient pas les dénoncer pour la simple raison qu'ils avaient peur des conséquences. Les femmes qui ne portaient pas le hijab ont été assassinées à l'intérieur de la Casbah. Des gens qui travaillaient le matin, ils se lèvent pour aller travailler par exemple à la préfecture ou à la mairie, ils se retrouvent égorgés dans un coin. C'est comme ça qu'on arrive à instaurer la terreur.
Je suis Mohamed et je vis ici depuis toujours, depuis ma naissance, en 1985. Je connais par cœur. Ouais. Même les escaliers me connaissent. Hein. Quand j'étais enfant, il y avait l'époque noire en Algérie, la guerre civile.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces années noires, justement?
Les têtes partout que je voyais, partout. Hein,
dans la Casbah?
Oui, il y avait des têtes ici. Par exemple, quand on tue quelqu'un, on le jette direct dans la rue. Et nous, on était enfants, par curiosité, on aime découvrir, on voit quelqu'un qui est mort et tout.
Ça a dû vous traumatiser?
Ça m'a marqué toujours. Hein. Par exemple, parfois, il arrive où je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit parce que j'aurai les images que j'ai eues à mon enfance. Vous voyez, je dors plus.
Le terrorisme, il a saccagé toute la Casbah. Les lumières, l'envie de vivre, les fêtes, il n'y a pas de fêtes.
Vous avez vécu ça?
Oui, bien sûr, madame. Bien sûr, on a vécu. On a vécu, j'ai 48 ans, madame. On est resté ici, on est resté solidaires et on a mangé nos langues. C'est pour ne pas parler.
Mais vous, pendant ces années noires, vous n'avez pas eu envie de quitter la Casbah?
On ne peut pas sortir de notre maison.
Vous ne vouliez pas leur laisser votre Casbah?
Bien sûr, c'est ça, oui, c'est ça.
Car cette Casbah,
a aussi su être un lieu de tolérance et de mixité où juifs et musulmans, par exemple, ont un jour vécu ensemble comme des frères. Comme en témoigne l'aventure d'El Gusto, un orchestre des années 50, divisé par l'histoire et récemment réuni. Tout de suite donc, c'est Chilette Layani d'El Gusto sur RFI. بحر وطاني ونقولك يا للهاني ونعيدلك ما جربي والقلب واشغله ونعيدلك ما جربي والقلب واشغله Casbah résonne encore aujourd'hui le Shaabi algérois, mais le quartier Alice a moins le cœur à la fête.
Oui, c'est ce que j'ai perçu en m'y baladant. Beaucoup parlent d'une Casbah d'avant, avant les années noires, avant la disparition des petits artisans, avant la paupérisation, avant la ruine et les murs lépreux.
Partout, cette désintégration du quartier saute donc aux yeux et fait mal au cœur. On vous retrouve avec Yousra, cette jeune algéroise qui vous a guidé dans la Casbah.
Donc voilà, donc on arrive à un lieu où il y avait des maisons qui sont écroulées.
Là où il y a les grands trous tout autour de nous, là devant les débris, là-bas les gravats, tous les pans de murs là qui ont l'air arrachés, tout ça c'était des maisons ?
Oui, en fait il n'y a pas un vide à la Casbah. C'est des maisons collées à des maisons.
Normalement, il n'y a pas d'espace vide.
Il n'y a pas d'espace vide. Si on voit un espace vide, c'est une maison qui s'est écroulée. Au milieu du vide, il y a un bidonville qui s'est fait monter avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment un bidonville avec des portes en tissu.
Et un toit en tôle, on voit également du parpaing. Enfin, on sent que tout a été pris à droite à gauche, quoi.
Oui, c'est une situation inquiétante pour l'avenir et pour la conservation et la restauration et la valorisation de la Casbah.
Qui sont ces gens finalement qui se sont installés dans des abris de fortune, dans les décombres des anciennes maisons ?
C'est des gens qui viennent de l'extérieur de la Casbah. Parce qu'en fait, les vrais habitants de la Casbah, il ne reste pas beaucoup.
Alors là, on voit une dame sur le pas de sa porte. Bonjour madame. Bon, je rentre chez vous alors.
Hein. Ouais, avec plaisir. Vous pouvez rentrer, vous pouvez visiter, vous pouvez... J'ai pas une maison, moi, j'ai une chambre. Une seule chambre. C'est petit, c'est humide, j'ai trois garçons. Impossible de vivre comme ça.
Donc là, c'est la pièce dans laquelle vous vivez ?
Je vis ici, je prépare à manger ici depuis 16 ans. Il n'y a ni fenêtre, ni rien du tout. Le petit, il est presque asthmatique.
Vous vivez à quatre ici ?
À quatre.
Ça fait à peine 15 mètres carrés.
Même pas.
Vous avez vos murs qui sont tout tachés d'humidité, c'est tout décrépit.
J'ai refait, j'ai tout, mais c'est l'humidité. Mes enfants, ils dorment ici.
Et vous, vous dormez où alors?
Par terre.
Vous avez même pas un matelas?
Non. Il n'y a personne qui travaille.
Et vous avez un mari?
Non, il est mort.
Il est décédé, vous êtes veuve?
Ouais.
Et vous viviez où alors avant?
Avant, j'étais dehors.
Dans la rue?
Dans la rue.
Et donc la mairie vous a placé ici?
Ouais. Donc je paye ni le loyer, ni l'électricité. Je suis arrivé ici par accident. Mais j'ai pas allumé la Casbah, moi. Non. Parce que je suis pas de la Casbah. La Casbah, c'est impossible de vivre ici.
Ceux qui aiment la Casbah sont ceux qui n'y vivent plus. C'est presque ce que l'on pourrait dire, Alice.
Il reste quand même des vrais enfants du quartier, hein, des Casbahchis. Et c'est vrai que la vieille ville s'est progressivement vidée de ses habitants historiques, notamment à la décolonisation en 1962, quand beaucoup d'habitants sont partis vivre à l'extérieur dans des immeubles plus confortables laissés par les Français.
Alors ce qui a eu pour effet de faire venir de nouveaux habitants, de plus en plus d'habitants, parmi eux des squatteurs notamment, qui ont construit des étages, bouché les puits. Or, la Casbah est fragile, ses fondations sont rongées par l'eau et par la surpopulation.
Des opérations de relogement ont aussi eu pour effet pervers d'inciter les habitants à saboter leurs habitations pour être eux-mêmes relogés ailleurs.
La Casbah s'effondre au grand désarroi des habitants, comme Tisse Abderrahim, guide culturel.
Regardez, 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 ça c'est la Casbah? Non, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous montrez?
Alors une terrasse écroulée, hein, le toit écroulé, tout est laissé comme ça. Donc moi quand je vois ça, des maisons en ruine et délabrées, ça me fait vraiment quelque chose au cœur. Ça me détruit à l'intérieur. Bon sang de bon sang, on est riche, on n'a qu'à louer une enveloppe et puis c'est pas les gros bras qui manquent, hein.
Alors comment vous expliquez que rien ne bouge pour la Casbah?
Parce que je pense que la Casbah c'est une épine. C'est une épine dans le dos du gouvernement. J'ai entendu par-ci par-là qu'ils voudraient bien détruire toute la Casbah et construire des villas, par exemple. Voilà.
Des immeubles modernes.
Très modernes, avec des vues sur la mer. Voilà. Vous savez que après le pétrole, ça sera le tourisme. Et puis c'est une manne pour l'Algérie, parce qu'à un moment donné, vous savez que dans les années 70. On recevait énormément de touristes en Algérie, et surtout à la Casbah. Donc, pourquoi pas aujourd'hui? Moi, j'ai rien compris. Je voudrais bien comprendre qu'on me réponde à ces questions. Voilà.
Ah, je suis Abdel Wahab Zekar, directeur général de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels. Dès le début, on a fait des travaux d'urgence, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont effondrées. Ça avoisine les 300 maisons sur les 1816 existantes. Nous avons beaucoup d'architecture de terre, très friable, et nous avons un site super dense, très occupé, 52 000 habitants sur 105 hectares, c'est énorme. Donc il va falloir le dédensifier. Il est question de déplacer des populations, surtout celles qui n'ont pas de relation directe avec le site. Peut-être qu'on va penser à 30 000.
Où est-ce que vont aller les 22 000 alors?
Ils vont aller ailleurs. Donc,
il y a déjà des problèmes.
Les squatteurs. Il y a des gros projets de logement. Et puis, il va falloir injecter des nouveaux projets. On veut pas d'un musée, on veut pas d'une ville momifiée. On veut d'une ville, une vraie ville, Médina, avec ses traditions, ses métiers, ses coutumes, etc. Ses habitants. C'est très important de maintenir l'habitant. C'est un cœur qui bat. Si vous arrêtez le cœur, le corps, il est mort. C'est fini, quoi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Alors, comment vous expliquez, dans ce cas-là, que ça avait pris tant de temps à bouger?
Un, il n'y avait pas la volonté politique. Il n'y avait pas, dans les années 90, il n'y avait pas d'argent. Pas du tout.
Donc là, il vient d'où votre argent?
Eh bien, c'est le pétrole. Par la suite, il y a eu le terrorisme. 10 ans de terrorisme, n'oubliez pas. Donc c'était pratiquement impossible, ni pour vous, ni pour moi, de rentrer dans cette Casbah dans ces années-là. Et ce pays, maintenant, peut se permettre le luxe d'investir sur la culture.
Donc le pétrole va sauver la Casbah ?
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Alors, j'aime bien passer par là parce que je ne sais pas qui a pris cette initiative. Mais au milieu des ruines,
voilà. Des gravats,
des gravats, il y a des paroles qui sont gravées sur les murs. Donc Nebela, c'est si on traduit, c'est la noblesse, l'mahabba, l'amour, et Nahnu Nour, on est lumière. Donc
la Casbah devient poésie.
Voilà, exactement.
C'est des grandes calligraphies arabes sur le mur. Hein.
Sur le mur, oui. Donc ça nous donne espérance qu'elle porte toujours cette beauté. Même si le corps est malade, mais le sens profond reste.
Et le cœur, lui aussi, continue de battre. Une façon peut-être d'attirer l'attention sur cette vieille ville en danger. Et pour vous, voyageurs, d'en arpenter le pavé. En voyage à la Casbah, pensez à vous faire accompagner d'un guide. C'est indispensable pour ne pas passer à côté de toutes les richesses et de tous les secrets que renferme ce lieu historique. Céline Develay-Mazurel, Benjamin Availlou et Alice Milo, on vous souhaite de beaux voyages et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous.
Des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes. Voilà de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes